mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs.
Bonjour Jean-Louis.
Je suggère cette semaine d'évoquer la question du charisme.
J'imagine que nous allons trouver un lien avec l'anthropologie de René Girard.
Bien sûr. C'est normal d'ailleurs, puisque cette anthropologie se propose de comprendre la nature humaine dans tous ses aspects.
Le phénomène du charisme est assez mystérieux. La vision girardienne permet-elle de le comprendre, ou du moins apporte-t-elle un éclairage nouveau ?
C'est ce que nous allons essayer de voir. Tu évoquais le caractère assez mystérieux du charisme. Il se manifeste en effet par une étonnante capacité d'influence de certaines personnes sur d'autres, jusque même à des foules entières. Ces dernières semblent renoncer à leur libre arbitre, à leur distance critique, et s'abandonnent à la fascination qu'exerce sur elles le personnage charismatique. D'où vient cette fascination ? Personne n'a jamais pu en donner d'explication. Le phénomène se constate, et c'est tout. Même les personnes qui disposent de ce pouvoir de fascination et d'influence ne savent pas d'où il vient.
Étymologiquement, le mot « charisme » vient du grec « charisma », qui signifie « grâce ». C'est un don.
Beaucoup d'auteurs, avant Girard, philosophes, sociologues ou autres, ont réfléchi au sujet du charisme. Leurs observations vont nous permettre d'approcher l'apport de l'anthropologie de René Girard sur cette question. La première observation à relever est la suivante. Un personnage charismatique est à la fois proche et éloigné des gens qu'il fascine. Il est à leur ressemblance et en même temps il en est différent. Ce mélange de similitudes et de différenciation n'est peut-être pas une caractéristique exclusive des personnages charismatiques, mais en tout cas, tous la possèdent.
Peux-tu nous en donner quelques exemples ?
Prenons l'archétype absolu du personnage charismatique, Jésus. Il est à la fois un être humain, c'est-à-dire comme nous tous, et en même temps, il est le Fils de Dieu. Un autre exemple est Napoléon. Il est proche de ses soldats, il leur pince l'oreille, tandis qu'il le surnomme le petit caporal. Mais il est aussi très différent. La Corse a été acquise par la France en 1768, et Napoléon est né en 1769. À un an près, il était sujet de l'Empire d'Autriche. Cet exemple nous entraîne aussi vers la seconde observation. Très souvent, les personnages charismatiques sont issus des marges de la communauté. Sans en être étrangers, ils sont un peu à part. Nous en avons un exemple avec le général de Gaulle.
Son charisme ne venait-il pas de son action lors de la Seconde Guerre mondiale ?
Il exerçait déjà un certain ascendant avant la guerre. Il publia, entre 1924 et 1934, 4 ouvrages de stratégie, dans lesquels il soutenait une vision originale de la défense, en intégrant notamment les apports des forces mécaniques, chars et avions. Bien qu'il fût un officier reconnu, ses conceptions suscitèrent le rejet de l'état-major. Il est typiquement dans la situation des personnages charismatiques. Il fait partie de la communauté, mais il y occupe une place à part, presque marginale. Cette marginalité n'empêche pas son influence. En témoigne sa nomination, rapide, comme général, lors de la débâcle, Paul Reynaud désirant en faire le sous-secrétaire d'État à la Défense nationale.
Quelles sont les autres observations faites classiquement sur le charisme ?
Nous pouvons noter son ambivalence. Le charisme n'est pas en lui-même quelque chose de nécessairement bon. Les personnages charismatiques peuvent emmener les personnes qu'ils fascinent aussi bien vers du positif que vers du négatif. Nous avons en mémoire certains gourous qui usent de leur pouvoir sur les membres de la secte au détriment de ceux-ci, parfois même jusqu'au suicide collectif. À l'inverse, de grands saints, prenons par exemple saint Vincent de Paul, pouvaient emmener de nombreuses personnes sur le chemin de la charité.
Est-ce le temps de passer à la vision girardienne du charisme ?
Nous devons évoquer un quatrième enseignement des études classiques sur le charisme. Il s'agit de la légende. La plupart des personnes charismatiques vivent sur la réputation d'avoir accompli de hauts faits. L'appel du 18 juin pour le général de Gaulle ou le serment de Koufra pour le maréchal Leclerc, voici des exemples de hauts faits légendaires qui vont donner à leurs auteurs une dimension exceptionnelle. Ces légendes procurent au personnage cet éloignement caractéristique du charisme. Nous sommes interdits devant eux. Voilà quelqu'un qui est un être humain comme moi, et pourtant il a accompli quelque chose d'extraordinaire que je n'aurais même pas imaginé. Ainsi s'éveille notre fascination pour lui. Le mot de légende est indispensable, car la plupart du temps, ces hauts faits, ces exploits, ne sont connus que de manière indirecte. Peu de personnes ont entendu l'appel du 18 juin, et les participants au serment de Koufra n'étaient pas bien nombreux. En réalité, ce qu'inspirent ces hauts faits, ces exploits, c'est tout simplement de l'admiration. Or, une certaine distance est nécessaire à l'admiration. Une trop grande familiarité l'écorne. Nul n'est un héros pour son valet de chambre, disait Goethe. Récapitulons ce que nous avons vu des enseignements classiques sur les personnages charismatiques. L'ambivalence de l'influence qu'elles exercent, le mélange de familiarité et d'éloignement à l'égard des autres, leur appartenance à la communauté mais avec une dimension marginale, enfin la nécessité de disposer d'une légende dont l'évocation inspire l'admiration. En réalité, ces caractéristiques nous mènent tout droit à René Girard.
Explique-nous cela en détail.
Le socle de la pensée de René Girard, c'est que nos désirs ne sont pas autonomes et qu'ils nous sont inspirés par un modèle, un médiateur. Or, à l'évidence, un personnage charismatique est un médiateur au sens de Girard. Sa simple présence suffit pour influencer les autres. Mais influencer les autres, ce n'est ni plus ni moins qu'orienter leurs désirs. Voilà ce qui permet d'intégrer les personnes charismatiques dans l'anthropologie mimétique. Ils sont une forme particulière du médiateur selon Girard. Du coup, tout ce que la vision girardienne dit des médiateurs nous permet d'éclairer le fonctionnement des personnages charismatiques. Le point majeur, c'est la question du sens de notre existence, ce que Girard a nommé le désir métaphysique. Que désirons-nous faire de notre existence? Rarement nous le savons, et le grand enseignement de Girard, c'est que nous allons répondre à cette question en suivant des modèles. Voilà où apparaissent les médiateurs, ce sont nos modèles. Pour une raison ou pour une autre, telle personne va nous sembler savoir ce qu'elle attend de l'existence. Nous qui ne le savons pas trop, nous voilà fascinés par cette personne. Nous sommes convaincus qu'elle possède ce secret dont nous sommes privés. Quel est le sens de l'existence? Dès lors, nous allons suivre son exemple. Nous allons nous comporter comme elle, l'imiter, jusqu'à désirer nous approprier son être même. Nous retrouvons ici le mécanisme fondamental des sectes. Des personnes en pleine incertitude existentielle vont suivre un gourou qui leur donne l'impression de savoir quoi faire de leur existence.
Je comprends l'ancrage. Les personnes charismatiques sont des médiateurs du désir, dans la théorie de Girard. Ceux qui les suivent obéissent au mimétisme du désir. Tu nous avais dit que les enseignements classiques, sur le charisme, nous mettraient sur la voie de Girard. Peux-tu préciser cela?
D'abord, nous avions noté l'ambivalence. Le charisme peut entraîner vers des choses positives comme vers des choses négatives. C'est exactement le cas du mimétisme, dont René Girard n'a cessé de commenter les deux faces. La face lumineuse, qui s'illustre en particulier par la transmission, et la face sombre, qui apparaît lorsque le mimétisme engendre des rivalités. Nous avions aussi évoqué les légendes qui accompagnent ou précèdent les personnes charismatiques. Elles font naître l'admiration, qui est le levier primordial du mimétisme. Nous n'imitons que ce que nous admirons. Ensuite, nous avions remarqué la dualité caractéristique du charisme. Un mélange entre éloignement et proximité, entre familiarité et distance, entre similitude et différenciation. C'est également le propre du médiateur de la théorie girardienne. Nous n'avons pas besoin d'imiter un personnage qui est manifestement comme nous. Et nous ne cherchons pas non plus à imiter quelqu'un de trop différent. Le médiateur, selon Girard, se situe dans un équilibre entre ces deux termes. Et c'est également le cas du personnage charismatique. Enfin, nous avions également vu qu'un personnage charismatique est souvent, tout en faisant partie de la communauté, dans une position marginale. C'est très exactement le cas des boucs émissaires de l'anthropologie girardienne, à la fois adulés et détestés. Reprenons l'exemple du général de Gaulle, condamné à mort en 1940, célébré dans la liesse aux Champs-Élysées 4 ans plus tard, évincé du pouvoir en 1946 et appelé à la rescousse en 1958.
Une dernière question, Jean-Louis. Nous savons bien que certains recherchent ou cultivent la fascination qu'ils exercent sur les autres. La lecture gérardienne nous procure-t-elle les moyens ou l'espoir de devenir charismatique ?
Traduit en langage gérardien, ta question devient « Comment être un médiateur du désir des autres ?» René Girard nous propose en réponse une condition nécessaire, quoique pas forcément suffisante. Il faut donner aux autres l'impression que nous savons ce que nous attendons de l'existence. Attention, nous sommes dans la sphère du non-verbal. Donner cette impression passe par un effet de perception directe et intuitive, pas par des discours, si élaborés soient-ils. Les actes sont bien plus efficaces. Je repense à deux personnages qui exercent cette sorte de fascination. Le roi Richard III, de la pièce de Shakespeare du même nom, et le personnage joué par Alain Delon dans le film Plein Soleil. L'un comme l'autre sont odieux et criminels, mais ils nous fascinent, car nous comprenons, au cours de leurs histoires, que chacun d'eux a un plan, qu'il désire quelque chose, qu'il a trouvé un but à son existence, de sorte que même si nous réprouvons leurs actes, nous ressentons une envie secrète de les voir réussir.
Attention Jean-Louis, te voilà sur le chemin de suivre des personnages charismatiques, mais dont l'exemple est des plus négatifs.
Tu as raison, il vaut mieux en rester là.
C'est plus sage. Au revoir Jean-Louis.
Au revoir aux auditeurs. Au revoir Catherine.